Vous écoutez Radio Capi, c'est l'heure de vous informer. Les journaux, Jean-Désiré Kanyama.
Radio Capi.
Au sommaire de ce journal, lutte contre l'épidémie à virus Ebola, le président du Burundi et président d'exercice de l'Union africaine appelle les États du monde, surtout africains, à faire preuve de solidarité envers la RDC et l'Ouganda. Évariste Ndayishimiye l'a dit ce mardi à Kinshasa au cours d'une conférence de presse conjointe organisée avec son homologue congolais Félix Tshisekedi. Les Léopards de la RDC jouent leur deuxième match de la Coupe du Monde ce mercredi au Mexique aux petites heures du matin face à la Colombie. Malgré l'horaire avancé, soit 3 heures du matin, heure de Kinshasa, cette affiche promet d'être suivie avec passion par l'ensemble des Congolais animés par un profond esprit patriotique. L'invité de ce journal est le coordonnateur provincial du programme de lutte contre la tuberculose au Kasaï oriental. Dr Marcel Kazadi parle des résultats du dépistage massif de 5 jours des malades de tuberculose à la prison centrale de Mbujimayi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lutte contre l'épidémie à virus Ebola. Le président du Burundi et président d'exercice de l'Union africaine appellent les États du monde, surtout africains, à faire preuve de solidarité envers la RDC et l'Ouganda en gardant leurs frontières ouvertes. Évariste Ndayishimiye l'a dit ce mardi à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa au cours d'une conférence de presse conjointe organisée avec son homologue congolais Félix Tshisekedi. On écoute le président burundais Évariste Ndayishimiye dans cet extrait proposé par Alain Irung.
J'exprime ma solidarité avec la République démocratique du Congo, le peuple congolais. Cette maladie, il ne faut pas la traiter sans avoir confiance à la science. L'exemple que je donne, c'est le Burundi n'a pas fermé les frontières, mais le Burundi n'a jamais été affecté parce que nous devons prendre des mesures de préparation, de prévention et en collaboration avec les organes de la République démocratique du Congo, nous essayons toujours de maîtriser. C'est pour cela que je voudrais saisir cette occasion aussi à appeler tous les États, surtout africains, d'être solidaires et aussi au monde entier d'être solidaires plutôt de nous enfermer. Il faut être solidaires et gérer ensemble cette épidémie qui n'est pas une épidémie qui peut faire peur comme COVID-19. Donc, j'appelle tous les États à ne pas fermer les frontières, mais plutôt à être solidaires en traitant cette maladie ensemble.
Au cours de cette conférence de presse conjointe avec son homologue burundais, Évariste Ndayishimiye, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a annoncé sa descente dans les tout prochains jours dans la province de l'Ituri pour s'imprégner de l'évolution de l'épidémie d'Ebola. On l'écoute, Félix Tshisekedi, dans cet extrait proposé toujours par Alain Irung.
La réunion tenue ce jour avec la Task Force Nationale de Lutte contre Ebola a permis de présenter à mon frère, Son Excellence, Monsieur le Président Évariste Ndayishimiye, un état des lieux complet à date de la situation épidémiologique ainsi que des mesures de riposte engagées par notre pays. Nous avons réaffirmé que les défis sanitaires auxquels l'Afrique est confrontée appellent une solidarité accrue entre les États, une coopération régionale renforcée et une mobilisation continue des mécanismes continentaux de prévention, d'alerte et de réponse aux urgences sanitaires. La protection de la santé de nos populations demeure un impératif collectif est un pilier essentiel de la stabilité et du développement durable de notre continent. Je voudrais aussi par la même occasion annoncer ici ma descente très prochaine dans la province de l'Ituri, justement sur les lieux même de l'épidémie, pour faire le suivi personnellement. Mon engagement est total, comme vous pouvez l'imaginer.
Notez que les chefs d'État congolais et burundais ont aussi abordé plusieurs autres sujets au cours de leur entretien bilatéral. Il s'agit notamment de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, des questions des réfugiés, ainsi que de la consolidation des relations économiques entre les deux pays. Autre actualité, les Léopards de la RDC jouent leur deuxième match de la Coupe du Monde ce mercredi au Mexique aux petites heures du matin face à la Colombie. Un match qui pourra déterminer la suite pour les deux sélections en présence. Toute caresse, un seul rêve, se retrouver au tour suivant. Ce match suscite les passions de tout genre, mais malgré l'horaire avancé, soit 3 heures du matin, heure de Kinshasa, Cette affiche promet d'être suivie avec passion, aussi bien par les amateurs de football que par l'ensemble des Congolais, animés par un profond esprit patriotique. Des détails avec Jean Gandou.
La rencontre entre la RDC et la Colombie s'annonce comme un affrontement où l'enjeu risque de prendre les dessus sur la qualité du jeu. La Colombie, forte de ses 3 points, aura impérativement besoin d'une victoire pour se qualifier directement au tour suivant. De son côté, la RDC, revigorée par sa prestation encourageante face au Portugal, devra se surpasser pour venir à bout de son adversaire du jour. Une qualification serait d'autant plus historique qu'elle viendrait prolonger la série des premières réussites déjà enregistrées, à savoir premier but et premier match nul dans une phase finale de la Coupe du Monde. La Colombie, qui part favorite selon les pronostics, pourra s'appuyer sur Luis Diaz et James Rodriguez. Leur talent individuel et leur capacité à créer le danger font de l'attaque colombienne un véritable atout. La RDC mise avant tout sur sa solidité défensive et un collectif discipliné capable de déjouer les plans adverses et de contenir les assauts ennemis. Cette organisation pourrait s'avérer déterminante pour neutraliser l'efficacité offensive colombienne. Cependant, les deux équipes présente aussi des faiblesses. Pour la RDC, le principal point faible reste le manque d'efficacité offensive. Quant à la Colombie, sa défense demeure parfois fragile et peut être prise en défaut, surtout si les attaquants congolais se montrent lucides et réalistes devant le but.
Et toujours à propos de la rencontre entre la RDC et la Colombie, à Matadi, dans le Congo central, certains habitants misent sur la victoire des fauves congolais. D'autres, en revanche, estiment que le match sera très disputé, mais qu'il se conclura par le succès des Léopards. On écoute leurs pronostics au micro d'Élise Kavira.
Pour soutenir les Léopards, nous sommes suffisamment confiants. Nous n'avons pas d'inquiétude, aucune appréhension contraire. Et sans minimiser l'adversaire, mais nous sommes confiants que nous allons remporter cette victoire à 2-1. À nos Léopards, courage, parce que les félins, c'est un animal qui ne recule devant aucune lutte. Ils ont la bénédiction des ancêtres et la victoire est à nous.
Si on a pu faire un match nul avec le Portugal, en tout cas, on n'a plus peur de rien. Hein.
Avec la mentalité que démontrent nos joueurs, je ne vois pas pourquoi j'aurais peur des Colombiens. Parce que Luis Diaz et James Rodriguez seront maîtrisables par notre défense. Que les matchs soient à 3h du matin. Avec mes amis, nous avons prévu de regarder ces matchs dehors dans un bar.
On doit gagner et je sais qu'on va gagner 3-0. Qui ne baisse pas les bras, on est derrière eux, ils font la fierté. Non seulement de la RDC, mais de l'Afrique.
Personnellement, j'ai comme l'impression que la RDC va jouer ces matchs comme une finale, hein, parce que déjà, avoir une victoire contre la Colombie serait une bonne chose. Ça va nous épargner de faire trop de calculs contre l'Ouzbékistan. Donc, je présage déjà une victoire pour la RDC.
Retour au Congo central, à Matadi, où le maire de la ville tire la sonnette d'alarme avant même la fin des épreuves de l'examen d'État 2026. Face au débordement récurrent qui accompagne les célébrations des finalistes, Dominique Nkodiambete hausse le ton. Pas de rassemblement, pas de défilé improvisé dans les rues et retour immédiat à la maison après chaque examen. Un rappel à l'ordre qui traduit l'inquiétude des autorités devant des scènes souvent marquées par le vandalisme, les accidents et autres troubles à l'ordre public. On écoute le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete. Il s'exprime au micro d'Élise Gavira.
À nos enfants, à nos élèves qui présentent l'examen d'État cette année, nous leur demandons seulement d'être concentrés. Nous, leurs parents, nous, leurs autorités, nous leur souhaitons bonne chance. Nous les bénissons tous. Alors, nous ne voulons pas de carnaval dans la rue, pas beaucoup d'actes d'exubérance qui dérangent, qui perturbent parfois l'ordre public. Donc, nous décourageons ça, nous ne voulons pas. Parce que souvent, pendant de tels événements, même les gens mal intentionnés en profitent. Alors, pour ne pas donner l'occasion aux personnes mal intentionnées d'infiltrer les carnavals des enfants qui finissent l'examen d'État, nous disons cette fois-ci, les chefs d'établissement, les inspecteurs doivent prendre les dispositions et surtout les services de l'ordre et de sécurité aussi. Et pendant les examens d'État aussi, nous décourageons les maths. Venez à l'école, vous présentez l'examen, vous rentrez à la maison.
Et dans ce même chapitre, en Ituri, les épreuves de l'examen d'État se déroulent normalement sur toute l'étendue de la province. Et cela malgré l'insécurité qui persiste dans certaines zones et la résurgence de l'épidémie d'Ebola. Les directeurs de la province éducationnelle Ituri en rassurent. Tous les centres de passation sont opérationnels. Il précise également que des mesures sanitaires renforcées ont été mises en place pour protéger les candidats contre la maladie. Des détails avec Isaac Remoyope.
Au total, 55 centres de passation de l'examen d'État sont opérationnels dans la province éducationnelle Ituri 1, dont un centre installé à Kampala, en Ouganda. Selon les directeurs provinciaux de l'éducation nationale, cette situation est le résultat de l'amélioration relative de la sécurité dans plusieurs zones autrefois affectées par l'activisme des groupes armés, notamment dans les territoires de Mombasa et de Djougou. Yvon Mouké.
La situation sécuritaire étant devenue assez calme, tous les centres ont gardé les lieux où ils sont implantés. Nous n'avons reçu aucun rapport selon lequel il y a des inquiétudes quelque part sur le plan sécuritaire. Donc les examens sont en train de très bien se passer.
Par ailleurs, les mesures de prévention contre Ebola ont été renforcées dans tous les centres d'examen. Des dispositifs de lavage de mains, des thermomètres de contrôle et des mesures de distanciation physique ont été mises en place avec l'appui du gouvernement et de l'UNICEF. Les salles de classe accueillent en moyenne 25 candidats afin de limiter les risques de propagation de la maladie pendant les déroulement des épreuves. Yvon Mouké.
Nous avons instruit les chefs de centre de pouvoir prendre toutes les dispositions pour que toutes les mesures sanitaires soient respectées. Je suis très très satisfait dans la mesure où nous n'avons reçu aucun rapport négatif.
Toutefois, des cas d'absentéisme et de déperdition scolaire sont signalés dans certains centres. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Et puis début ce mardi des audiences foraines des tribunaux de grande instance de Kalemie dans les territoires de Kongolo en province du Tanganyika. D'après le procureur de la République, l'objectif est de désengorger la prison des Congolos. Charles Benjamin Tapale souligne que plusieurs détenus préventifs sont incarcérés depuis des années sans être jugés. Le point avec Paul Mounanga.
10 prévenus sont à la barre ce mardi. Ils sont poursuivis pour viol, meurtre et vol qualifié. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kalemie, Charles Benjamin Tapale, annonce que les audiences vont se tenir d'une manière successive jusqu'à l'épuisement d'une soixantaine de dossiers. Le programme conjoint d'appui à la réforme de la justice en RDC soutient financièrement l'organisation des audiences foraines du tribunal de grande instance de Kalemie à Kongolo. Signalons par ailleurs que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kalemie trouve opportun d'affecter des juges de paix dans plusieurs territoires de la province du Tanganyika. Il s'agit des territoires de Kabalo, Nyunzu, Manono, Moba et Kongolo. D'après lui, les tribunaux de paix dans certains de ces territoires ne fonctionnent pas à la suite de la carence des juges dans ces territoires. Et cette situation met en péril les droits des détenus. Il rappelle qu'il y a pléthore de juges dans les grandes agglomérations. Il propose qu'il y ait des primes pour les juges qui travaillent dans les milieux ruraux afin de les encourager à prester loin des milieux urbains. Lubumbashi, Paul Mounanga, Radio Okapi.
Et tout à fait autre chose, à Kinshasa, pendant la saison sèche, certaines personnes se plaignent d'une aggravation des douleurs dentaires, caries, plus sensibles ou difficultés à manger. Pour certains patients, la situation devient difficile à supporter. Quelles sont les causes de ce phénomène? Réponse dans ce reportage de Christian Makasinga.
Pour cet habitant de Kinshasa, chaque saison sèche rime avec des douleurs dentaires persistantes. Déjà atteinte des caries, elle explique que ses souffrances s'intensifient dès que cette période commence.
Je souffre déjà des caries dentaires, mais pendant la saison sèche, les douleurs deviennent encore plus intenses. Ma joue a même gonflé, ce qui m'a obligée à consulter un dentiste. À chaque saison sèche, mes dents me font énormément souffrir.
Le phénomène que confirme le docteur suédois Sikutende Peter, spécialiste en dentisterie générale.
La saison sèche crée une déshydratation générale au niveau du corps. Et la salive a pour rôle de neutraliser les microbes au niveau de la bouche. Et quand il y a baisse de la salive, c'est comme ça qu'il y a augmentation des microbes au niveau de la bouche, c'est ce qui entraîne des cavitations au niveau des dents, ce que nous appelons communément du caries.
Face à ces risques, les spécialistes insistent sur l'importance des mesures préventives.
Pendant ces périodes de saison sèche, c'est bien s'hydrater et deuxièmement, c'est bien nettoyer les dents. Bien nettoyer les dents en les faisant au moins 2 fois par jour. Et j'insiste que avant de dormir, on brosse les dents.
Actualité internationale.
Le Kenya a ordonné l'arrêt des préparatifs relatifs à un centre de quarantaine dédié à Ebola géré par les États-Unis, a affirmé ce mardi le ministre kenyan de la Santé devant un tribunal. C'est après avoir été condamné pour outrage à la justice pour avoir ignoré une précédente ordonnance de suspension des travaux. Les États-Unis comptent construire dans ce pays un centre pour d'éventuelles évacuations de leurs ressortissants qui seraient touchés par cette épidémie qui sévit notamment en Ouganda et en République démocratique du Congo. Un projet très contesté depuis plusieurs semaines par la société civile au Kenya.
L'invité.
Il s'agit du coordonnateur provincial du programme de lutte contre la tuberculose au Kasaï oriental. Docteur Marcel Kazadi parle des résultats du dépistage massif de 5 jours des malades de tuberculose à la prison centrale de Boujimaï. Il s'entretient à ce sujet avec Esther Ndalafina.
Bonjour docteur Marcel Kazadi.
Bonjour Maman Esther.
Votre coordination a organisé la semaine dernière un dépistage massif de la tuberculose au niveau de la prison. Est-ce que nous pouvons savoir quel a été l'objectif de cette activité?
Merci pour votre question. L'objectif de cette activité était d'arriver à dépister tous les cas de tuberculose qui se trouveraient à la prison centrale. Même le personnel administratif qui travaille là-bas, même les gardiens, tout le monde devait passer à l'examen. De sorte que nous ne puissions pas seulement nous contenter des prisonniers, mais on ne sait jamais ceux qui les gardent ou ceux qui travaillent là-dedans peuvent aussi être déjà tuberculés sans qu'on le sache. C'est ainsi que nous avons eu un nombre de 598 personnes qui devaient passer à l'examen. Cet examen commence d'abord par la radiographie du thorax. Et avec l'appareil qu'on a maintenant, on peut savoir si la personne est susceptible de faire la tuberculose ou pas avec seulement la radio qu'on va tirer. Si déjà à la radio, on nous signale que le cliché de cette personne est susceptible qu'il fasse la tuberculose, nous l'envoyons maintenant à l'examen d'une experte où il va donner les crachats pour qu'on puisse nous dire si il fait la tuberculose.
Quels sont les résultats que nous pouvons retenir par rapport à ce dépistage massif?
Par rapport à ce dépistage massif, nous avons eu 192 personnes qui avaient des clichés, on dirait pathologiques. Et ces gens devaient aussi donner leur crachat à la machine d'une experte. Parmi eux, on a trouvé seulement 6 personnes qui ont été positives pour la tuberculose. Mais en dehors de 6 personnes, il y a eu aussi 76 personnes avec des clichés pathologiques parmi les 192.
Par rapport à tous ces cas identifiés, qu'est-ce que la coordination a pris comme mesure?
La mesure, c'est de mettre tout ce monde sous antituberculose, sous les médicaments pour la tuberculose. Tout le monde. Nous allons le faire déjà au début de la semaine ici. Nous venons de terminer l'activité. On va d'abord trier pour savoir est-ce qu'il y a des prisonniers, est-ce qu'il y a des administratifs qui sont malades ou bien parmi les gardiens. Et qu'on aura terminé avec la liste, c'est ainsi que nous allons mettre tout le monde sous antituberculose.
Faites souvent la relève des policiers. Et si ceux qui sont, par exemple, malades sont déjà partis, comment est-ce que vous allez les repérer?
Je pense qu'il y a quand même des adresses. Un policier, il a son chef. Son chef connaît où se trouve tel policier. Ceux qui le remplacent, on va les chercher.
La coordination a-t-elle déjà tous les intrants pour prendre en charge les 82 malades?
Les intrants sont là pour prendre en charge tous les 82 malades.
Pensez-vous que la prise en charge médicale de tous ces 82 malades déjà identifiés peut résoudre ou éradiquer cette maladie au niveau de la prison centrale de Moujba?
Bien, dire que la prise en charge de ces 82 malades va éradiquer la tuberculose au niveau de la prison centrale, c'est trop dire, puisque si au moins nous avions des salles où on peut séparer ces malades de ceux qui ne sont pas encore malades, ce serait une bonne chose. En ce moment-là, on peut couper cette chaîne de transmission. Mais ils vivent ensemble chaque jour. Nous disons quand même on les soigne, mais au moins qu'on puisse guérir ceux qui sont déjà malades. On ne sait pas les séparer de ceux qui ne sont pas malades.
Et qui va faire le suivi?
Le suivi sera fait avec l'aide du médecin directeur de la prison. Il a déjà identifié certains prisonniers qui peuvent suivre les autres qui doivent prendre le traitement. Il a ces relais communautaires parmi les prisonniers. C'est eux qui vont suivre les autres qui doivent prendre les médicaments.
Et à quand le prochain dépistage?
Le prochain dépistage pourrait peut-être intervenir à la fin de l'année.
Merci beaucoup, docteur Marcel Kazadi.
Merci, Maman Darafine.
Et c'était l'invité de ce journal, le coordonnateur provincial du programme de lutte contre la tuberculose au Kasaï oriental, Docteur Marcel Kazadi s'entretenait en Boujimaï avec Esther Ndalafina. C'est la fin de ce journal. Infiniment merci à vous de l'avoir suivi et de continuer à le réécouter sur toutes les plateformes digitales des Radio Okapi.